Il y a encore peut-être une autre chose de la part que l'on a. Il y a aussi au chapitre 17, à propos de la joie, verset 13, « Afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes, cette joie-là, réaliser la joie du Seigneur en nous. » Mais un peu plus loin, c'est la gloire du Seigneur. Verset 24, « Afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. » Alors, ce lavage des pieds, cette vie entretenue, nous donnera de découvrir toutes ces choses quant au Seigneur. Sa joie, sa paix, son amour, sa gloire. Puis encore une chose peut-être pour Pierre, quand il va se laisser faire, une fois encore, il aura sur lui les mains du Seigneur. Il avait eu cette main qui délivre, on l'a vu ce matin, quand il s'enfonçait dans l'eau, la main du Seigneur qui le tire. Une chose qu'on n'a peut-être pas vue ce matin, mais quand ils sont sur la montagne, à un moment de la transfiguration, ils sont terrorisés, ils ne peuvent pas supporter ce qu'ils voient, et peut-être même la voix qu'ils ont entendue, le Seigneur met sa main sur eux, c'est la main qui rassure. Et ils ne voient Jésus que Jésus seul. La main qui m'a délivré, la main qui me rassure, et maintenant la main qui lave les pieds. Rendez compte, la main du Seigneur sur les pieds de ses disciples, le Seigneur qui s'occupe de moi, de toi, de chacun d'entre nous, pour que nous ayons cette part avec lui, pour partager sa paix, sa joie, son amour, pour nous préparer pour la gloire.
Cette symbolique qui vient d'être évoquée n'a pas été compris. Disciples, ils le comprendront plus tard, assurément. Mais sur le champ, et la remarque de Pierre prouve à l'évidence que ces choses-là, ils ne pouvaient y entrer. Il est notre justice et notre sainteté. Mais, comme cela vient d'être rappelé, il y a quelque chose qui a dû sûrement les marquer, c'est quand le Seigneur Jésus s'est mis à leurs pieds, précisément. S'est agenouillé. L'oriental, on a dit, je crois qu'elle cela évoque, l'oriental qui sort du bain a le corps propre. Mais quand il rentre chez lui, il a les pieds souillés. Donc il y avait ce lavage des pieds. Et à la fin du passage, il nous est dit, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Je pensais au titre ou à l'intitulé de nos études qui parle de formation continue. Et quand on parle de formation continue, on évoque bien sûr le monde de l'entreprise. Alors, étant fonctionnaire, je n'ai pas beaucoup l'expérience de l'entreprise. Mais il y a des points communs et puis il y a des différences. Dans une entreprise, il y a un patron. Ce patron, il est en principe respecté, il donne des ordres, il exige une soumission, c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige. Le Seigneur est notre patron. Mais il s'est mis aux pieds de ses disciples. Alors, dans quelle entreprise pourrait-on imaginer un patron, un PDG, n'est-ce pas, on pourrait dire une multinationale, parce que c'est ce qui va se passer, n'est-ce pas, un grand patron, vienne ainsi se mettre aux pieds. Dans cette situation, compte tenu des critères de l'époque et des clivages sociaux, et le rôle de l'esclave. Alors, le Seigneur, je pensais à ce passage de Marc, mais on le retrouve dans les autres synoptiques, le Seigneur peut dire, celui qui sera grand parmi vous, eh bien, va devenir serviteur. Quiconque d'entre vous voudra devenir le premier sera l'esclave de tous. Car aussi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il est venu servir, et même plus que cela. Et si nous relions ça avec notre fil conducteur, qui est celui finalement du service et du ministère. Alors, il faut savoir que ministère, ça vient d'un mot latin, ministerium, qui veut dire qui a donné le mot métier, mais qui a donné également le mot serviteur, service, serviteur. Celui qui exerce un ministère est d'abord et avant toute chose le serviteur des autres. Alors, l'évolution historique a fait que précisément On s'est acheminé assez rapidement, semble-t-il, en peut-être 2 ou 3 siècles, vers cette, ce qu'on a appelé l'épiscopat monarchique, où l'évêque, n'est-ce pas, domine, règle, régente et régit tout son beau monde. C'est totalement contraire à l'enseignement de la parole, d'une part, et à ce que le Seigneur a voulu. Celui qui, encore une fois, qui exerce un ministère, doit se considérer comme le serviteur. Vous aussi, faites de même.
Encore une chose remarquable à signaler dans ce lavage des pieds, ce sont toutes les actions menées par le Seigneur. Au verset 4, il se lève, et puis il met de côté ses vêtements, puis il prend un linge dont il s'enseignit, puis il verse de l'eau dans le bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Tout ça se fait d'une manière très méthodique, très précise. Lorsque le Seigneur entame une œuvre, quelle qu'elle soit, dans chacune de nos vies, il le fait toujours d'une manière très méthodique. Lui, il sait ce qu'il veut. Lui, il sait où il va. Il connaît la quantité d'eau qu'il doit mettre dans le bassin. Il sait que l'eau ne doit être ni trop froide, ni bouillante. Il ne laisse pas les pieds mouillés. Il va aller jusqu'à la fin. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'à la fin. Il faut aller jusqu'à essuyer les pieds. Et ce n'est qu'une fois l'œuvre terminée que l'on sent et que l'on comprend ce que le Seigneur a voulu, ce que le Seigneur a réalisé dans notre vie. Il est certain que Pierre, comme les autres disciples, n'ont rien compris, comme nous aussi. Lorsque nous sommes dans telle ou dans telle situation, lorsque nous sommes au cœur de l'épreuve, nous réalisons bien, et c'est heureux pour nous, que le Seigneur est avec nous, mais nous ne voyons pas où il veut en venir, comment l'épreuve va se terminer. Et c'est pour cela que dans ce chapitre 13, il y a à chaque fois l'intervention du Seigneur entre le maintenant et le plus tard. Dans le lavage des pieds, il dit très bien à Pierre, au verset 7, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Et il faudra attendre effectivement le jour de la Pentecôte, l'après-restauration de Pierre, pour qu'il comprenne et pour qu'il agisse à l'instar de son maître. Et à la fin du chapitre 13, il y a encore ce maintenant et ce plus tard, lorsque le Seigneur peut leur dire « Voilà, je m'en vais » et Pierre, toujours rempli de zèle, vient lui dire au verset 36e, « Seigneur, où vas-tu ? » Et Jésus de lui répondre, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Mais à quel prix ? Il ne le sait pas encore. Le Seigneur le sait, mais c'est étape par étape, méthodiquement, que le Seigneur forme son disciple, afin que son disciple, étant formé, soit lui-même, à son tour, capable de former une autre génération de disciples. Pour Pierre, comme pour les autres, avec un rôle essentiel, c'est la période apostolique. Ils vont obtenir ce titre merveilleux d'apôtre, envoyé au loin pour prêcher Christ, mais avec cette recommandation fondamentale de former une nouvelle équipe de disciples, et ainsi de maillon en maillon, de génération en génération, ils nous ont transmis le témoin. Et c'est à notre tour de continuer ce que le Seigneur ici a institué, nous aimant les uns les autres et nous lavant les pieds les uns des autres.
Donc cet office, ce que le Seigneur Jésus fait là, va permettre à Pierre de partager, avoir une part, partager des choses essentielles avec le Seigneur Jésus. Recevoir de lui, donc comme Jean-Luc nous l'a dit, la paix, connaître ce qu'est la vraie joie, ce qu'est l'amour, aussi découvrir un peu la gloire, tout ce qui est permis, ce qui est proposé aux croyants. Donc ce moment-là particulier et cette action du Seigneur Jésus, cette eau, dans le concret, va permettre à Pierre de de découvrir une part, quelque chose qui est un secret de l'enfant de Dieu, du croyant avec son Seigneur. Cette action de la parole de Dieu. Donc, pour dire que nous avons besoin, chacun, de cet office du Seigneur Jésus. Bon, il n'est plus là, bien sûr, sur la terre, mais puisque c'est un sens spirituel, nous avons besoin de cette action du Seigneur et de cette parole. Même si c'est plus général et ou collectif, il y a ce verset d'Éphésiens 5 qui montre quelque chose de précieux qui va dans ce sens-là. Dans Éphésiens 5 et au verset 25, Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, par parole, afin qu'il se présente à l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà le Seigneur Jésus qui aime l'assemblée, donc l'ensemble des enfants de Dieu, des croyants qui forment cette épouse, l'Église, et il la purifie, il la nettoie en quelque sorte, par le lavage d'eau, par la parole. Donc individuellement, bien sûr, nous, en écoutant Dieu nous parler par la parole, nous sommes purifiés, nettoyés. Lorsque nous sommes ensemble, eh bien, comme aujourd'hui par exemple, eh bien, nous entendons des uns des autres la parole de Dieu et la parole nous nettoie, nous aide dans avoir des pensées nettoyées. Il y a peut-être deux choses. Bon, là on est sur le sujet de Pierre, mais d'un côté, le lavage, si j'ai bien compris ce qu'on nous a dit, le lavage des pieds, c'est une coutume habituelle pour tout le monde. Ce qui est exceptionnel, c'est que ce soit le Seigneur qui fasse cela. Mais si c'est quelque chose d'habituel, de normal, qui fait partie de la vie quotidienne, voilà que le Seigneur dit, mais ce que je vous ai fait, alors vous devez vous le faire les uns les autres. Donc c'est une pratique habituelle, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais quelque chose d'habituel. Peut-être que, j'ai lu ça, mais peut-être que ce n'était pas tout à fait exact. C'est vrai, quand quelqu'un passait, un voyageur, entrait dans la maison, on lui lavait les pieds, mais c'était aussi quelque chose qui était fait par l'épouse pour son mari lorsqu'il rentrait du travail. C'était fait aussi les enfants pour leurs parents. Et peut-être aussi pour vous faire penser que c'est quelque chose qui est vécu, qui peut être vécu, puisque nous devons faire cela. Il y a un sens spirituel à quelque chose de physique, là. Voilà, dans le cadre familial. Donc si c'est quelque chose de normal, ça ne veut pas dire obligatoirement que ce sont il s'agisserait de... où on est tombé, on s'est blessé le pied. Il s'agit du fait qu'on a marché. Est-ce que vous ne croyez pas que lorsque, même sans sortir de chez soi, mais quand même, disons, on va partir tous les matins, normalement, pour aller travailler, et on va, ou pour aller, pour sortir de chez soi, et on va donc être au contact de personnes qui ont une manière de penser, une justice, une manière d'aimer, une manière bon, ils ont peut-être une manière de sainteté, il y a des critères aussi pour eux, des choses qui sont justes ou injustes. Et si nous ne faisons pas attention, eh bien petit à petit, cette manière de penser va être notre manière de penser. Et le fait de pouvoir justement rentrer à la maison, le fait de pouvoir rencontrer des croyants, de pouvoir justement avoir cette pensée qu'on peut ensemble, découvrir ce qui va pouvoir nous laver de cette habitude de penser. Et peut-être que justement la parole de Dieu est le seul critère aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui sont normales, naturelles. On est même habitué, ça fait... Bon, quand c'est tout nouveau, ça surprend, puis on s'habitue. Est-ce que justement la parole de Dieu n'est pas là pour nous, pour nous rappeler ce qu'est quels sont les critères de Dieu, et en même temps la parole de Dieu nous lave. Alors dans cette lecture individuelle, le Seigneur directement avec nous, et puis les uns pour les autres, dans le cadre familial et puis le cadre de la relation des croyants. Est-ce qu'on peut donner un peu cette application?
Juste entre parenthèses, avant de de continuer ce que tu as dit, Philippe. Dans le chapitre 15, nous avons le lavage initial dont il a été parlé tout à l'heure, au verset 3. C'est le bain dont il nous a été parlé tout à l'heure. Vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai dite. C'est le lavage initial. Dans ce que nous avons ici, c'est le lavage des pieds. Il y a un frère qui disait que quand le peuple d'Israël marchait dans le désert, y compris le sacrificateur, qui le voulait ou non, il avait de la poussière sur les pieds. Et donc, quand nous marchons dans le monde, que nous le voulions ou non, nous contactons de la souillure. Nous pouvons ne pas nous en rendre compte, mais nous contactons de la souillure. Et nous avons besoin de revenir à ce que Dieu pense pour pouvoir avoir une part avec lui, partager quelque chose avec lui. Le Seigneur Jésus n'a jamais eu une quelconque communion avec la façon de penser du monde. Il n'a jamais eu un quelconque partage avec sa conception, ses façons de faire, ainsi de suite. Et nous aussi, pour avoir une part avec lui, nous avons besoin d'être dans cette disposition-là, la disposition dans laquelle nous met la parole. Et donc, nous sortons, comme tu viens de le dire, et nos pensées se forment, et nous avons besoin de lire. Et quand nous lisons la parole, la manière dont Dieu pense est empreinte sur nous, tout de suite, c'était la manière dont le monde pense, et nous sommes devant la manière dont Dieu pense. Alors, ce que nous devons retenir ici, c'est ce que le Seigneur dit à la fin, comme je vous ai fait. Comme je vous ai fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, nous devons nous laver les pieds, appliquer le Seigneur au cœur. Non pas parler de ceci ou bien de cela, mais ramener toutes choses appliquer le Seigneur au cœur, de telle sorte que notre communion soit avec lui. Et tu dis que c'est quelque chose qui se fait souvent. Je parle pour moi le premier. Il ne nous sied pas de parler de la pluie et du beau temps. Mais si nous pouvons partager des choses qui nous rapprochent du Seigneur, qui nous sort de ce monde si où nous avons, Hébreux 12 nous parle du péché qui nous enveloppe si aisément, on n'a pas besoin d'aller jusque là, mais qui nous rapproche du Seigneur, eh bien nous nous lavons les pieds, non pas faire la leçon mon frère, c'est pas du tout ce que le Seigneur a fait ici. Il a rendu ses disciples dans une disposition propre à avoir une part avec lui là où il se trouve, c'est-à-dire dans la gloire.
Ce lavage des pieds est donc intervenu juste avant l'institution de la scène. Entre le lavage des pieds et la scène, Judas a été démasqué et Pierre participe à cela dans notre chapitre 13 en ce qu'il fait signe à Jean de demander qui est celui qui le livrerait. Et puis c'est à ce moment-là que Judas sort et il y a l'institution de la scène. Donc aussi, bien sûr, l'application très pratique de ce lavage de la parole pour aussi nous préparer au souvenir du Seigneur. Et après la scène, c'est Luc 22, verset 31, ce qu'on a lu, « Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. » Élie me disait tout à l'heure, en aparté, une part avec moi. Si tu veux avoir une part avec moi, et que ce « une part avec moi » a dû l'encourager par la suite. Et là, il y a deuxième grand encouragement, « J'ai prié pour toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. » C'est extraordinaire que le Seigneur, à l'avance, lui dit déjà qu'il va revenir et lui dit déjà tu seras de nouveau utile, tu ne vas pas être disqualifié. On reparlera tout à l'heure de la disqualification ou non. Mais c'est extraordinaire ce message-là du Seigneur pour
pour tenir son disciple à l'avance, avant la chute. Et c'est, on a déjà vu tout à l'heure la prière du Seigneur pour ses disciples quand ils étaient dans la tempête et qu'il a marché. On avait vu tout au début de la matinée sa prière avant de les choisir. Et là, on le voit encore prier pour Pierre. On oublie sûrement trop ce service de prière du Seigneur pour nous.
C'est peut-être aussi un exemple dans ce que ce passage de Luc, justement de ce qu'est aussi le lavage des pieds. Bon, Pierre n'a pas bien écouté, mais c'est vrai que le Seigneur là va lui donner une sorte de point de repère, de petit point lumineux qui va briller dans sa vie quelques jours après, le lendemain, quand il aura renié son maître. Et je ne sais pas si on réfléchit un peu à ce que pouvait être l'état d'esprit de Pierre à ce moment-là. Bon, j'anticipe peut-être un peu, mais il y avait de quoi être absolument désespéré. Mais le Seigneur lui avait donné ce qu'il fallait avant, comme une bouée de sauvetage, comme une lampe allumée au fond, pour passer. On verra un peu plus tard quand dans Jean 21, il va lui dire « Quand tu seras devenu vieux ?» Et vous vous rappelez, quand Pierre est en prison, vous savez, la nuit où on allait le tuer le lendemain, où l'ange est venu le chercher, le seul qui dorme bien cette nuit-là, c'est Pierre. Les gardiens ne dorment pas parce qu'ils n'ont pas le droit. Je ne sais pas si Hérode dormait bien, mais il devait lui tarder le lendemain pour se venger. L'assemblée priait pour lui. Le seul qui dort, c'est Pierre. Est-ce qu'il est inconscient? Mais non, il avait cette bouée, ce que le Seigneur lui avait dit. Quand tu seras devenu vieux? Mais il n'était pas vieux, là. Bon, il attendait la délivrance. Enfin, je crois, c'est peut-être un peu apocryphe, mais je ne crois pas que ce soit apocryphe. Il me semble que c'est ça. Alors le Seigneur nous donne des choses comme ça. Et il nous donne des aides aussi. Et je crois que, pour revenir un tout petit peu sur Jean 13, Philippe, tu es mon aide pour la vie, et réciproquement. Quand je vous ai lavé les pieds, faites-vous les uns les autres. Et dans l'enseignement de Jean 13, il y a cet enseignement du Seigneur pour aller vers l'autre, pour lui laver les pieds, lui apporter Christ. Et puis à la fin du paragraphe, il y a l'enseignement pour recevoir l'autre. Celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie me reçoit. J'ai besoin que tu me laves les pieds comme tu as besoin que je te lave les pieds. C'est réciproque. Apprendre à recevoir, ne pas faire comme Pierre qui refuse, et apprendre à apporter. Alors pour aller, j'allais dire c'est facile, c'est le chemin du Seigneur au pied de l'autre. Pour recevoir, je ne sais pas si c'est pas parfois plus difficile d'accepter quelqu'un à ses pieds. Je ne sais pas. Mais il y a quelque temps, on avait rencontré un chrétien ukrainien dans l'église où il était en Ukraine. Il pratiquait le lavage des pieds physiquement. Donc on se mettait aux pieds avec une bassine et de l'eau. Et il nous a raconté que de faire ça physiquement, c'était pas du tout évident. Être au pied de son frère, avec qui on a peut-être des atomes crochus ou autre chose, être au pied, prendre les pieds, laver les pieds, etc., c'est pas évident d'être à genoux devant quelqu'un. Et je crois pas que ce soit très évident non plus d'avoir quelqu'un à genoux devant soi. Donc c'est, je dis pas qu'il faut le faire physiquement, mais pour donner une illustration un peu de cette difficulté des soins mutuels, aller recevoir, que le Seigneur nous a demandé de faire. Il nous dit pas, si vous en avez l'occasion, vous devez le faire. Il dit, vous devez le faire, c'est un ordre à la suite de notre Seigneur. Et on en a besoin pour être rafraîchi dans notre cœur, pour être redressé, pour avoir cette part avec Christ, pour que Christ soit notre part.
Il y a ce niveau-là, une part avec Christ. Et puis, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. C'est aussi une part l'un avec l'autre. Alors on a besoin aujourd'hui d'une manière particulière d'une communion réalisée dans le Seigneur. Bien, prenons l'instruction toute simple. S'il n'y a pas de lavage mutuel des pieds, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de partage véritable. C'est peut-être un sujet de réflexion actuellement très utile.
La parole de Dieu a quadruple usage. Dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 3 et au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. » Et en cela aussi réside le lavage des pieds. Parole de Dieu, lavage d'eau, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. Se trouver aux pieds d'un autre, non pas pour faire des reproches, mais pour repositionner sur Christ. Et je pensais à cet exemple de Nathan, le prophète, qui est envoyé par Dieu devant le grand roi David. David vient de se rendre coupable d'une double faute effroyable. Il a convoité la femme d'un autre, et pour pouvoir mieux l'obtenir, il a fait massacrer son mari. C'est l'histoire de Bathsheba et d'Uri. Et avec quel tact Dieu vient parler au cœur du grand roi David en la personne du petit prophète Nathan. Une parabole, un homme riche qui possède beaucoup de bétail, un homme pauvre qui ne possède qu'une brebis, et nous connaissons la suite. Et David va prononcer lui-même sa propre condamnation. Une parole, pas n'importe quelle parole, la parole d'un prophète. Or, prophète, dans l'étymologie grecque, c'est celui qui parle de la part de Dieu devant quelqu'un, devant une assemblée, devant les grands du royaume d'Israël, devant le grand roi David. Et voilà un merveilleux lavage de pieds. Une communion qui va être restaurée, parce que tout de suite après la condamnation, David va dire « J'ai péché contre l'Éternel ». Et il y aura le merveilleux psaume 51, où effectivement David va reconnaître son erreur et il va demander à Dieu de lui rendre la joie de son salut. Autre chose intéressante maintenant dans ce que le Seigneur dit à Simon, « Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé ». Comme cela peut nous paraître effrayant à nous. Il nous semblerait que parce que nous connaissons le Seigneur Jésus, tout va toujours très bien se dérouler, tout va toujours très bien se passer. Mais n'oublions jamais que Satan est toujours là. Satan existe. Il peut se déguiser sous différentes formes. Ça peut être le lion rugissant qui rôde autour de nous, cherchant qui il va pouvoir dévorer. Ça peut être le serpent tentateur qui sait si bien prendre cette voix intérieure qui nous susurre les pires choses qui soient, les pires pensées qui soient. Il peut aussi se déguiser en ange de lumière, celui-là même vers lequel on ne ferait pas attention, et pourtant. Et souvenons-nous de ce pauvre Job, selon la terminologie. Il y a là comme un défi dans les chapitres 1 et 2 qui est lancé par Satan à Dieu. Dans le premier chapitre, Satan qui vient dire à Dieu « Oui, il t'est fidèle, mais c'est parce que tu lui accordes tout ». Et Dieu permet à Satan de toucher à toutes les possessions et toutes les richesses de son fidèle serviteur. Et Job reste fidèle. Et dans le second chapitre, Satan se représente devant Dieu et vient dire à Dieu « Oui, il t'est resté fidèle, mais en réalité, il a encore une bonne santé. » Et Dieu vient dire à Satan « Mais tu peux toucher à sa santé, mais surtout ne le fais pas mourir. » Et nous voyons effectivement qu'après avoir perdu toutes ses possessions, tous ses enfants, il devient gravement malade. Mais Job, malgré l'intervention indélicate de ses amis, va quelque part rester fidèle à son Dieu. Et il y a cette déclaration merveilleuse à la fin du livre de Job, Au chapitre 42e, nous pouvons lire cette expression, Job 42, l'épreuve étant terminée, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Qui est celui-ci qui, sans connaissance, voile le conseil ? J'ai donc parlé et sans comprendre de choses très merveilleuses pour moi, trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. Écoute, je te prie, je parlerai, je t'interrogerai et toi, instruis-moi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu, c'est pourquoi j'ai horreur de moi. » Et je me repens dans la poussière et dans la cendre, suite à l'intervention de Satan. Il a horreur de lui, il a mal parlé, mais il a retenu une chose, c'est que son Dieu est capable de tout, et que son oreille, son intelligence, était peut-être capable de connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais qu'il était encore beaucoup plus utile et vital de le voir agir, au sein de sa propre vie. C'est l'expérience que Pierre va vivre. Satan est là, il a demandé à le cribler, comme les autres disciples d'ailleurs, parce qu'ils vont tous s'échapper lorsqu'on viendra arrêter Jésus à Gethsémané. Ils vont être criblés, Satan va faire son œuvre, une œuvre d'éloignement, mais il va aller jusqu'à permettre que Pierre renie son maître 3 fois. Je ne connais pas cet homme. Mais puis il va revenir. Et il va pouvoir faire la même expérience que Job. Je connaissais certaines choses sur toi, Seigneur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle merveilleuse déclaration. Mais maintenant mon œil t'a vu. Après les 3, m'aimes-tu, Pierre ? Seigneur, tu sais que je t'aime. Maintenant mon œil t'a vu. Et alors peut commencer, après cette formation si difficile, si délicate, peut alors commencer le véritable service. Et nous admirons Pierre dans ses faits et gestes que nous lisons dans le livre des Actes.
Ils entrent ensuite au jardin de Gethsémané, quitter la chambre haute, descendent le cédron et puis montent au jardin de Gethsémané. Alors, il y a 3 groupes de disciples. Il y en a un qui n'y est pas, c'est Judas, et il viendra un peu plus tard dans le jardin. Il y a les 8 qui, Matthieu 26, 36, asseyez-vous ici, jusqu'à ce que, m'en étant allé, j'ai prié là. Et puis il y a les 3, un peu les 3 mêmes intimes qu'on avait vus chez Jaïrus, qu'on a vus à la montagne de la Transfiguration. 3 groupes de disciples, M. Georges-André pose la question. Il y a 3 distances. 3 distances. Soit on est avec Judas, soit on est un peu loin, comme les 8, ou alors on est plus proche des souffrances du Seigneur, mais on peut encore être éveillé ou endormi. Et il pose la question, à quelle distance sommes-nous des souffrances du Seigneur, éveillés ou endormis ? Effectivement, Simon dort est peut-être en écho avec la façon dont Simon Pierre avait un petit peu dit si tous te scandalisent, moi je ne le ferai point. Donc ça doit être Matthieu, verset 35. Pierre dit, quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Voilà, verset 33. Si tous étaient scandalisés en toi, moi je ne serais jamais scandalisé. Ce côté moi je. Les autres, mais moi je. Alors peut-être en écho à cela, celui qui dort, c'est Pierre, et ça nous est souligné dans 2 évangiles, ici dans Matthieu, c'est verset 40, et il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, et puis dans un autre évangile, Simon, tu dors.
Le Seigneur a pu avertir Pierre à l'avance. Pourquoi ? Parce qu'il était vigilant. Il est celui qui veillait. Nous ne pouvons pas soupçonner l'activité de l'adversaire. Mais ce que nous pouvons savoir, c'est qu'il est constamment à l'œuvre. Satan a demandé à vous savoir. Voilà. Pierre se croyait peut-être en sécurité. Et il était. Mais l'activité de l'adversaire est là, de telle sorte que nous ne pouvons pas nous reposer. On voit dans le jardin le Seigneur prier. Et le Seigneur savait parfaitement ce qu'il allait lui arriver. Il lui pose la question, tu dors? Il savait ce qu'il allait arriver à ce disciple. Deuxième chose, le Seigneur lui dit, j'ai prié pour toi. Qu'est-ce que Pierre en a fait de ce que le Seigneur lui a dit? Est-ce qu'il a écouté? Il ne croyait pas qu'il me faudrait mourir avec toi. Je suis prêt, verset 33, avec toi Seigneur, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. C'était la parole de qui était importante. Et il me semble que cette confiance en soi prépare tout droit le piège dans lequel ce cher disciple va tomber.
Forcément, toujours ce que le Seigneur veut nous dire. Quand les disciples étaient dans Matthieu 16, dans Matthieu 16, Pierre n'a pas aimé quand le Seigneur lui a dit « Je vais mourir ». Et le Seigneur va insister en disant, il dit ailleurs, si quelqu'un ne se renonce pas soi-même, il ne peut pas être mon disciple. Mais les disciples avaient cet a priori dans leur cœur, ils suivaient le roi, ils allaient régner et il allait être glorieux et la croix pour eux était impossible à accepter. Pierre, il aimait le Seigneur de tout son cœur. Il était prêt à donner sa vie pour le Seigneur. C'est absolument vrai, ça. C'est le seul qui avait une épée et qui a quand même réagi face à la troupe. À contre-temps, certainement, mais il avait quand même réagi. Il était vraiment prêt. Mais son a priori personnel, alors il y a sa confiance en soi, et puis il y a le schéma de ce qu'il voit, lui, qui correspond à ce qu'il pense. Et il devient sourd à ce que le Seigneur lui dit. Et pour nous, dans nos vies, sans peut-être être... moi, en tout cas, personnellement, je ne pense pas que j'arrive pas à la cheville de l'enthousiasme de Pierre, qui était prêt à risquer sa vie pour son maître. Mais pour nous, on a souvent des schémas de pensée. Quant à la vie collective, quant à la manière dont on doit réaliser la vie chrétienne, on a l'image du chrétien idéal, si on peut dire, on a beaucoup de schémas de pensée, des a priori que l'on s'est construit petit à petit, qui a peut-être même une apparence de vérité biblique. Le fait que, par exemple, le Seigneur, il voulait que le Seigneur règne, c'était juste, il règnera, mais ce n'était pas le moment. Et cet a priori, ce schéma que l'on a, nous empêche d'écouter ce que le Seigneur nous dit. Et on a du mal à accepter, et c'est parfois après coup que tout d'un coup on se dit « Mais oui, j'avais pas fait attention ». Alors, peut-être une exhortation tout à fait pratique pour... on dit toujours pour les jeunes, mais peut-être que nous qui sommes plus âgés, on a plus de risques d'avoir des a priori. Prenons le temps de lire soigneusement la parole de Dieu. Prenons le temps de lire en posant, si j'ose dire, les lunettes de nos a priori. Je ne veux pas dire qu'il faut faire table rase de tout ce que l'on a appris, ce n'est pas vrai. Mais se laisser instruire par Dieu, se placer devant Dieu. Pierre, il avait le privilège d'être en face à face avec le Seigneur, qui lui parle, qui lui dit « J'ai prié pour toi », qui le prévient, etc. Et il n'écoute pas. Mais nous, est-ce que cela ne nous arrive pas? Pour Pierre, c'est que le Seigneur a continué à s'occuper de lui et l'a ramené. Je crois que les conséquences pour nous, c'est la même chose. Dans l'Épître aux Philippiens, il est dit que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ.
Ils me font penser à l'exemple de Pierre. Soit que je marche, soit que je m'arrête. On pourrait aussi rajouter, soit que je marche en arrière. Parce que si nous reprenons l'exemple de l'entreprise, un employé qui se conduirait comme ça, qui ferait preuve de négligence, qui ferait preuve de lâcheté, voire de trahison et de mensonge, je pense que ce serait la lettre de licenciement. Je pense. Or, notre maître, notre Seigneur, agit différemment. Quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Alors, voilà ce que le Seigneur a dit. Si nous regardons dans la première épître de Pierre, pardon, c'est dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre au verset 10. Pierre dit lui-même, c'est au chapitre 1er au verset 10, « C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. » On pourrait dire, mais voilà, c'est du Pierre, encore une fois, c'est pas un homme qui est sûr de lui, dominateur, mais il faut lire ce qui précède. Il est passé par l'expérience du reniement. Et encore une fois, je repose la question, quel est le maître, le patron, qui accepterait de confier un rôle de responsabilité historique, unique, à un homme qui sait comporter de la sorte? Alors, c'est pour notre encouragement. On constate que les grands serviteurs de Dieu sont passés par ces moments-là. Élie, le grand prophète, le plus redoutable des prophètes d'Israël, a eu son moment de faiblesse, de dépression. Appelons ça comme on voudra, je ne sais pas, on ne peut pas faire un diagnostic clinique. Il a souhaité la mort. Dieu lui a répondu et lui a parlé par cette voix subtile qui parle de la grâce. Et Élie sera plus le même après. Nous avons deux ou trois indices qui nous montrent qu'il a changé. Paul, l'apôtre des nations, a persécuté l'Assemblée. Je pense que ça lui est toujours un petit peu resté. Pierre a renié son maître. Il l'a fait publiquement, devant témoins. Imaginons un petit peu ce que cela représente. Et dans cette église primitive, ce que les chrétiens pouvaient dire, « Oh ben oui, toi tu nous fais la leçon, tu viens, mais regarde un petit peu le comportement que tu as eu. » À ce titre, ils étaient tous évidemment dans la même situation. Eh bien, Dieu permet cela. Et je pense que dans le cadre de notre sujet sur aussi la formation continue, le ministère, nous pouvons avoir eu des chutes, nous pouvons avoir être passés par des expériences douloureuses, soit personnelles, soit dans nos familles, des expériences humiliantes et douloureuses. Mais souvenons-nous que Dieu a un plan. Il a eu un plan pour Pierre. Tu auras à fortifier tes frères. Il a un plan pour chacun de nous. Et d'une façon ou d'une autre, nous avons nous aussi à nous souvenir de cette grâce infinie de Dieu qui nous permet de marcher, aller de l'avant, de faire un pas après l'autre. Même si, dans le passé, nous avons fait un pas en arrière.